Le journal Rémi Bossaron.
La France tout entière porte le deuil de vos enfants
qui viennent de vous être arrachés par des tueurs sanguinaires.
L'hommage de Jean Castex aux 6 jeunes humanitaires tués dimanche dernier au Niger. Le Premier ministre présidait une cérémonie intime à l'aéroport d'Orly devant la famille et les proches des victimes. Elle a pris tout le monde de court, la décision du Royaume-Uni d'imposer une quarantaine aux visiteurs venus de France. Résultat, c'était la ruée aujourd'hui, notamment des vacanciers britanniques désireux de rentrer chez eux au plus vite.
Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai cherché un nouveau billet pendant 3 heures. Les prix étaient très élevés. Je pense que c'est nécessaire, j'aurais juste aimé qu'ils le disent plus tôt.
Face à cette situation sanitaire qui se tend un peu plus chaque jour en France, c'est encore et toujours le masque qui apparaît comme le recours prioritaire. Un masque que le gouvernement veut voir porter dans les entreprises. Un masque qu'il faut porter de plus en plus en extérieur, en ville. Les forces de l'ordre passent à l'action, vous l'entendrez, face aux contrevenants. À l'étranger, ils étaient encore des milliers rassemblés ce soir à Minsk, la capitale biélorusse, des manifestants qui ne désarment pas face au président Loukachenko, malgré les récits glaçants de ceux qui ont déjà été arrêtés.
Ils m'ont tabassé dans un bus. 10 policiers anti-émeute m'ont frappé et frappé. Ils m'ont dit « Vous, tous les opposants à Loukachenko, vous n'êtes que du bétail stupide ».
Nous passerons aussi par le Liban où l'aide française est arrivée à bord du porte-hélicoptère Tonnerre. Notre envoyé spécial à Beyrouth, Nicolas Feldman, a assisté à ce débarquement. Et puis nous irons encore une fois à Lisbonne pour la suite de la Ligue des champions de football et un match fou en ce moment. Le Bayern Munich est en train d'atomiser le FC Barcelone 4-1 à la mi-temps dans ce quart de finale. Nous prendrons aussi des nouvelles des joueurs lyonnais qui joueront leur quart de finale demain face à Manchester City. La météo à la fin de ce journal avec Marlène Durey, un programme bien agréable demain. Il faudra en profiter. Et vos deux rendez-vous du soir, évidemment, cet été, les conseils de lecture de Stéphane Place et la bonne idée de François Claus. Ce soir, il est question d'une initiative en faveur des soignants épuisés, vous le savez, par la vague épidémique du printemps. Eh bien, des stations de montagne leur proposent à ces soignants de venir se reposer en altitude.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un Premier ministre visiblement ému qui a rendu hommage cet après-midi aux 6 jeunes humanitaires français tués au Niger dimanche dernier. Des enfants dont la France peut être fière, a dit Jean Castex lors de son discours à l'aéroport d'Orly avant de s'incliner devant les cercueils. Une cérémonie sobre et intime, Jonas Chabas.
Oui, c'était une cérémonie très intime à la demande des familles qui ne voulaient pas être vues. Jean Castex est arrivé une heure avant pour s'entretenir avec les proches des 6 Français tués. Il s'est ensuite recueilli en silence devant les 6 cercueils alignés et recouverts de draps bleus. Et c'est très ému qu'il a pris la parole devant les familles de victimes pour exprimer sa profonde tristesse.
La France tout entière porte le deuil de vos enfants.
Ces enfants qui viennent de vous être arrachés par des tueurs sanguinaires, pourraient être les miens. Charline, Nadifa, Myriam, Stella, Antonin et Léo n'étaient pas partis en Afrique pour se battre, mais pour donner leur générosité. Des enfants dont vous pouvez être fiers, des enfants dont la France entière peut être fière.
Jean Castex l'a rappelé, la France et le Niger font tout pour trouver les coupables. Selon le Premier ministre, il y a peu de doute, l'attaque était terroriste, avec, je cite, la même haine et lâcheté qu'au Bataclan. Le parquet antiterroriste est saisi et les coupables seront traqués, assure Jean Castex.
Merci Johanna Chabas. Sur le front de l'épidémie de Covid-19, les jours se suivent et les mots ne changent pas. Pour la Direction générale de la Santé, la situation se dégrade encore en France. Plus de 2800 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Une situation qui a donc conduit notamment le Royaume-Uni à décider soudainement d'imposer une quarantaine aux voyageurs venus de France. Mesure applicable à partir de demain matin et qui a pris beaucoup de monde de court, notamment les 160 000 Britanniques en vacances dans l'Hexagone. On a donc assisté à un mouvement massif de départ dans la journée, notamment à la gare du Nord où se trouvait pour Europe 1 Caroline Baudry.
Je pense que c'est nécessaire, j'aurais juste aimé qu'ils le disent plus tôt.
Quand Laura apprend que la quatorzaine sera obligatoire dès demain, elle écourte son séjour en catastrophe. En montant dans un Eurostar aujourd'hui, elle évite de se confiner.
Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai cherché un nouveau billet pendant 3 heures. Les prix étaient très élevés.
Derrière elle, Arthur et Donatien, des Français expatriés en Angleterre, valise sous le bras, ils sont arrivés en avance à la gare. Pour eux, impossible de louper le train.
C'est ma mère, ma sœur qui sont venues me réveiller en me disant bah, il faut rentrer parce que bah, y a la quatorzaine qui arrive et on ne peut pas se permettre pour notre travail d'avoir une quatorzaine, donc on est obligé de rentrer, quoi.
Je ne suis pas persuadé que que ça soit très efficace d'interdire les voyages vers l'Orient de France. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais moi typiquement entre mars et juin ou juillet, je suis resté 3-4 mois à Londres, j'étais jamais resté aussi longtemps, du coup c'est reparti. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu bloqué. Hein.
Bloqué, car la France promet une mesure de réciprocité. Bientôt, la quatorzaine pourrait s'appliquer à tous les voyageurs arrivant du Royaume-Uni.
Le reportage de Caroline Baudry est conséquence de cette ruée vers le Royaume-Uni. Tous les shuttles, toutes les navettes du tunnel sous la Manche avaient été réservées jusqu'à demain matin, alors qu'à Calais, les autorités du port ont demandé aux compagnies de ferry d'augmenter le nombre de leurs rotations vers Douvres pour s'adapter à cette demande. En France, cette situation sanitaire tendue a des conséquences. D'abord, ce soir pour Paris, la préfecture de police a décidé d'intensifier les mesures mises en place dans la capitale à partir de demain. De nouvelles zones sont concernées par le port du masque obligatoire. Ça concerne notamment une partie des Champs-Élysées, le quartier du Louvre et celui des Batignolles. Et la préfecture précise que si la situation épidémiologique devait à nouveau se dégrader, le port du masque pourrait devenir obligatoire sur l'ensemble de la capitale. Dans les autres villes françaises, ces mesures de port du masque obligatoire dans les quartiers les plus fréquentés continuent à se multiplier. C'est le cas depuis aujourd'hui à Chambéry et à Aix-les-Bains notamment, et ce sera le cas à partir de demain à Dijon notamment. Et ces mesures seront appliquées avec une grande vigilance par les forces de l'ordre. On peut le constater à Lille par exemple, passé le temps de la pédagogie, place aux sanctions. Maximilien Carlier a suivi cet après-midi la patrouille d'une brigade du commissariat de police.
Bonjour, police nationale.
Oui.
Vous savez que les rues piétonnes, le masque est obligatoire.
Bah, je suis désolé, écoutez, j'ai pas fait attention, j'étais au téléphone.
Vous savez que l'amende, c'est une amende de quatrième classe, 135 euros.
Je sais pas quoi vous dire, je savais pas. Je suis blasé, au moins écoutez, c'est un bon rappel. Hein.
Plus de fermeté concernant le port du masque. Certains n'en ont pas du tout, parfois c'est un oubli en sortant du restaurant par exemple, mais pour d'autres.
J'ai envie de respirer, monsieur.
Je suis d'accord avec vous, monsieur, on a tous envie de respirer. Le problème, c'est que vous circulez sur une place où ils sont tous masqués.
Moi, je viens de Maubeuge, chez nous, c'est pas obligatoire, donc se faire verbaliser pour ça alors que je suis pas d'ici. Ben voilà, c'est tout. Hein.
Des excuses qui ne passent plus alors qu'il y a des panneaux masques obligatoires un peu partout. Bon, il y a un peu de discernement pour ceux qui le mettent sous le nez, sur le menton, qui mangent ou qui fument.
Des cigarettes par terre, voilà, vous les écrasez, comme ça vous pourrez mettre un masque.
Et vous fumez ?
Ben vous fumez plus. Ici, en tous les cas, vous ne fumez pas. Ouais. Sinon, quel intérêt ? Expliquez-moi comment ça se passe. Alors, celui qui mange un sandwich, qui fume, il fait comment, là ? Il se balade, le nez est dégagé, il respire, il croise tout le monde. Ça n'a pas de sens. Donc, le bon sens, c'est que si vous voulez fumer, vous mettez là-bas, à l'écart. Et quand vous êtes en mouvement, vous mettez votre masque. Oui, on fait encore de la pédagogie. On est obligé.
Et il y a eu 15 verbalisations cet après-midi sur la Grand Place. Un peu plus de 300 depuis la mise en place du masque obligatoire, il y a 11 jours. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et ce masque qu'il faut donc porter de plus en plus souvent dans les villes, il pourrait bien s'imposer aussi dans les entreprises. C'est le souhait en tout cas du gouvernement qui entamait aujourd'hui les premières consultations avec les partenaires sociaux en vue d'un nouveau protocole sanitaire donc pour les entreprises. Consultation en visioconférence avec le patronat, puis avec les organisations syndicales aujourd'hui avant une nouvelle réunion prévue mardi prochain. L'objectif, c'était avant tout de sonder les différents partenaires, notamment Force ouvrière où Michel Boga est en charge des questions de l'emploi.
Il y a en question l'obligation du port du masque en entreprise. Pour Force ouvrière, il n'y a pas de problématique, pas de problème pour que le gouvernement pose un cadre national. Après, il faut que ce cadre puisse être décliné dans les entreprises, mais décliné de manière concertée, de manière négociée dans les entreprises pour que tout à chacun, puisque les entreprises sont toutes diverses, une entreprise ne fait pas l'autre, eh bien que ces dispositions soient adaptées dans l'entreprise au plus près du terrain pour que la santé des salariés soit vraiment préservée. Depuis que le nouveau Premier ministre est arrivé, il y a beaucoup d'échanges avec le gouvernement, avec le ministère du Travail, avec Matignon. Et ce type de réunion augure en fait d'un bon dialogue, en tout cas à ce qu'on l'espère.
Michel Boga en charge des questions de l'emploi à Force ouvrière. Il était interrogé par Carole Ferry pour Europe 1.
Rémi Botsaron sur Europe 1.
À Beyrouth, l'aide humanitaire, humaine et matérielle annoncée la semaine dernière par Emmanuel Macron est arrivée aujourd'hui à bord du porte-hélicoptère Tonnerre. L'opération militaire a été baptisée Amitié et Nicolas Feynman, notre envoyé spécial sur place, a assisté à ce débarquement.
Donc là, vous êtes dans un des hangars véhicules où vous avez à la fois des camions de transport de matériel, des tractopelles, pour les travaux de déblaiement.
Le capitaine Étienne passe en revue les engins dans les soutes du porte-hélicoptère. Au bout des rampes, le port de Beyrouth dévasté, la tâche est colossale. Déblayer les montagnes de tôle, les tonnes de gravats. Sur le quai, des soldats écrasés par la chaleur déchargent des palettes de médicaments, de blé, de farine. Et pour superviser l'acheminement de cette aide et accompagner les Libanais, plus de 700 militaires français sont déployés. Florence Parly, ministre des Armées.
À bord de cette ville flottante, il y a de nombreuses compétences. Des soldats du génie de l'armée de terre, des spécialistes de la construction et de la réparation au milieu des gravats, des plongeurs des mineurs qui effectuent des missions de reconnaissance des accès maritimes au port, ou bien encore des sapeurs-sauveteurs.
Et pour compléter ce dispositif, un autre navire français, le porte-conteneur Callao, doit arriver dans les tout prochains jours dans le port. À Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe 1.
Et on a appris par ailleurs aujourd'hui qu'un deuxième ressortissant français figurait parmi les victimes de cette explosion d'il y a 10 jours, explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth. Le dernier bilan officiel fait état de 171 morts et plus de 6500 blessés, dont 93 blessés donc de nationalité française. L'Union européenne va sanctionner la Biélorussie, décision des chefs de la diplomatie des pays membres aujourd'hui face à la répression brutale de l'opposition depuis la réélection contestée du président autoritaire Alexandre Loukachenko. L'Union européenne assure qu'elle va sanctionner les responsables de cette répression. Une répression policière qui, d'ailleurs, est sans effet, visiblement, sur la mobilisation populaire, notamment à Minsk, la capitale. Jeanne Bergaoui, ce soir, ils étaient encore des milliers rassemblés devant le siège du gouvernement.
Absolument, des milliers d'hommes et de femmes, souvent vêtus de blanc et de rouge, et déterminés donc à faire plier le régime et à obtenir de nouvelles élections. Sixième nuit de mobilisation marquée par une présence policière plus discrète que les jours précédents. Depuis hier, les autorités semblent donner des signes de recul face à cette contestation qui prend de l'ampleur et gagne tout le pays. Alexandre Loukachenko vient par exemple d'appeler les forces de sécurité à une certaine retenue. Depuis ce matin, plus de 2000 personnes ont été libérées de prison. Et donc, libération de la parole. À la sortie, beaucoup décrivent des conditions de détention atroces. Ils racontent avoir été privés d'eau, de nourriture, de sommeil, avoir été frappés, torturés, entassés dans des cellules. Des témoignages glaçants qui circulent sur les réseaux sociaux, comme celui de cette jeune femme menacée de viol par ses geôliers.
Ils m'ont tabassé dans un bus. 10 policiers anti-émeutes m'ont frappé et frappé. Ils m'ont insulté, harcelé, menacé de mort. Ils m'ont retiré mon pantalon. Ils m'ont dit « Vous, tous les opposants à Loukachenko, vous n'êtes que du bétail stupide ». Ils n'ont fait que m'insulter d'animal et m'ont traité comme un animal. Ils m'ont jeté au sol, sur les genoux. Ils m'ont promis 10 ans de prison. J'ai demandé « Mais pourquoi ?» Il m'a répondu « Parce que t'es une terroriste ».
Malgré ces témoignages, malgré la répression, la contestation gagne une partie de l'élite du pays. Plus de 1000 chercheurs ont signé une lettre contre la violence. Et des journalistes de médias d'État viennent de démissionner. Et pour maintenir le rapport de force, tout s'appelle à descendre à nouveau dans la rue, à se rassembler massivement et pacifiquement.
Merci Jeanne Bergaoui. Je vous parlais de cette réunion des chefs de la diplomatie des États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ont aussi évoqué la situation en Méditerranée orientale. Et c'est une volonté d'apaisement qui se dégage. Ils ont plaidé pour une désescalade alors que la Turquie avait accusé aujourd'hui la France de se comporter en caïd dans cette zone de Méditerranée. Ce qui est au cœur des tensions, c'est toujours cette recherche d'hydrocarbures par la Turquie au large des îles grecques, ce qui a provoqué le déploiement de bâtiments militaires français dans la zone. Avant de parler football, faisons un petit détour par Marseille. C'est une histoire qui a fait beaucoup parler aujourd'hui aussi et à laquelle on peut offrir une petite place dans cette actualité internationale, notamment très chargée. C'est l'histoire d'un jeune couple qui se souviendra longtemps de la naissance de sa petite fille. Alors, c'est le cas de beaucoup de parents, vous me direz, mais particulièrement ceux-là, car c'est un accouchement qui s'est passé en urgence avec l'aide des policiers de la BAC et tout a commencé lors d'un contrôle routier. Le récit de Stéphane Franchi.
Interpellé pour excès de vitesse sur sa moto, Akram dit avoir une bonne excuse.
J'ai ma femme qui m'avait appelé en m'expliquant que l'accouchement a commencé, c'est imminent. Donc elle me dit le petit va arriver, t'es où? Comment ça se fait que t'es pas là? Tu me laisses seul? Panique est complète, je fonce en direction de la maison pour l'amener à l'hôpital.
D'abord sceptique, Cédric et Mickaël, les deux équipiers de la BAC, se rendent à l'évidence.
Il nous sort l'excuse de la femme enceinte, comme ça arrive très souvent.
Et effectivement, quand on a vu son épouse arriver, elle est descendue de chez elle, le ventre tout gonflé et qui tient pas tout à fait debout, qui se tient contre la voiture, qu'on comprend qu'il y a une urgence.
Pas une minute à perdre donc pour les coéquipiers. coéquipier.
On prend la décision de les escorter. Le papa et moi, j'ai pris le volant de sa voiture. Cédric m'a ouvert la route et le plus rapidement possible.
Et un moment de stress pour les futurs parents jusqu'à la ligne d'arrivée.
Stupéfait, je me retrouve à l'arrière, policier qui conduit ma caisse, notre policier qui lui fait la route. Ça va très vite. Ils prennent tous les risques, voies de bus, sens interdit, pour aller le plus vite possible. Il faut savoir que ma femme, elle a commencé à accoucher dans la voiture, donc on voyait la tête. Et elle criait, elle poussait. Grâce à eux, ça s'est joué vraiment une minute près. Et elle a accouché sur le brancard en rentrant dans la clinique.
Et le fin mot de cette histoire, c'est une petite Alia, 2,8 kg et le cœur déjà bien accroché. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et après cette histoire qui, espérons-le, vous aura donné un peu le sourire, direction Lisbonne pour parler de football. Comme promis, on suit la Ligue des Champions, encore une fois avec ce soir un quart de finale magnifique. L'affiche était magnifique, Barcelone face au Bayern Munich. Et en plus, le match est magnifique. Julien Froment, vous le suivez sur place pour Europe 1. Le Bayern Munich est en train de se balader face au Barça.
Oui, après 59 minutes de jeu, 4-2 pour le Bayern Munich face au FC Barcelone. Une promenade de santé en effet pour le club bavarois qui a fait la différence en première période avec 4 buts inscrits par Alaba, par Perisic, Gnabry et Müller. Cette équipe du Bayern vraiment très impressionnante face à une équipe de Barcelone complètement perdue. Normalement, le Bayern devrait se qualifier assez logiquement pour les demi-finales de cette Ligue des Champions, même si le Barça fait de la résistance avec notamment un but de Suarez il y a de cela quelques instants.
Et il reste donc plus d'une demi-heure à jouer dans ce quart de finale. Et si on regarde de près ce quart de finale, au-delà du fait que c'est une très belle affiche, c'est que le vainqueur de ce match sera peut-être l'adversaire de Lyon en demi-finale si les Lyonnais battent demain Manchester City. Alors justement, prenons avec vous des nouvelles de ces Lyonnais. Dans quel état d'esprit sont-ils avant ce quart de finale qui s'annonce bien compliqué demain face à City?
Eh bien écoutez, ce sont des Lyonnais plutôt confiants, plutôt relâchés, puisqu'ils n'ont rien à perdre dans ce quart de finale face à Manchester City. City qui est le grand favori hein, dans cette opposition d'ailleurs. C'est ce qui plaît beaucoup à l'attaquant Karl Toko Ekambi.
Je ne dirais pas qu'il y a un rôle de petit poussé, parce que si on est là, c'est qu'on fait partie des 8 meilleures équipes d'Europe sur cette saison-là en Ligue des Champions. Donc il faut se mettre en tête que City est une grande équipe, mais il faut qu'on se mette en tête aussi que l'OL a réussi à se qualifier. Donc il faut penser aussi à nos forces et se dire que tout est possible sur ce match-là et que vaut mieux que City nous voit un petit poussé et qu'il nous, en quelque sorte, nous néglige pour qu'on puisse profiter de cela.
Voilà, d'autant plus que le petit poussé lyonnais a déjà battu hein, par le passé Manchester City. C'était en 2018 en phase de groupe de la Ligue des Champions. Une victoire 2-1 sur la pelouse des Anglais. Maintenant, il ne reste plus qu'aux joueurs de Rudy Garcia de faire la même performance demain soir au stade d'Alvalade face à cette équipe anglaise.
Eh bien merci Julien Froment, donc envoyé spécial d'Europe 1 à Lisbonne, et c'est d'ailleurs, on suivra avec vous demain Lyon face à Manchester City, à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne à partir de 20h demain autour de Lionel Rosso, Lyon qui espère se qualifier pour les demi-finales comme est en train de le faire sans doute l'oncle Bayern face au FC Barcelone. 4-2 pour les Allemands à une demi-heure de la fin de ce match. Et pendant ce temps en France, on assiste à une succession d'annulations de matchs amicaux pour les clubs de Ligue 1 en raison de suspicions de cas de contamination au Covid-19. Après Marseille hier, c'est Lens qui doit renoncer. Il y avait un match prévu face au Sparta Rotterdam et Bordeaux qui ne peut pas jouer face à Auxerre à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Et d'ailleurs, l'actualité sportive est largement marquée par cette épidémie. Aujourd'hui, on a aussi appris que le perchiste français Valentin Lavillenie avait été testé positif. Il a donc dû renoncer au meeting Ligue de Diamants de Monaco. Et on a appris également que le marathon de Nice-Cannes était annulé. Il était prévu le 29 novembre prochain. On va tout de même parler d'une épreuve qui, elle, a lieu en ce moment en cyclisme. Le critérium du Dauphiné libéré. Un peu plus de deux semaines du début du Tour de France. On regarde cette épreuve de près, évidemment. Et victoire aujourd'hui en solitaire du champion d'Italie, Davide Formolo, dans la troisième étape à Saint-Martin-de-Belleville. Il devance le Slovène Primoz Roglic, qui conforte donc sa place de leader devant le Français Thibaut Pinot. Et demain, il y aura encore de la montagne au programme dans ce Dauphiné libéré, quatrième et avant-dernière étape entre Ugine et Megève. La météo.
L'orage à Beaugrandet, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Marlène Duret, bonsoir. Il va falloir en profiter avant le retour des orages qui est prévu pour dimanche. Demain samedi, la journée s'annonce plutôt agréable.
Oui Rémi, une petite journée de répit avant une dégradation en fin de journée samedi. Tout le long de l'Atlantique, le ciel alternera donc entre nuages et soleil et des ondées orageuses pourront déjà se déclencher l'après-midi de la Bretagne à la Vendée, mais aussi dans les plaines du sud-ouest et de façon plus marquée sur les côtes basques. Le ciel aura donc tendance à se voiler sur le quart nord-ouest, mais la pression restera lumineuse. Des nuages issus de la dégradation précédente s'attarderont près des frontières du nord et donneront quelques gouttes localement sur le reste du pays. Ce sera une belle journée d'été. Les températures au meilleur de la journée afficheront 21 degrés à Boulogne-sur-Mer, 23 à Saint-Malo, 25 à Amiens, 26 à Lille, 27 à La Rochelle. Nous aurons 28 à Paris ainsi qu'à Tours, 29 à Nancy, Besançon, Clermont-Ferrand, 30 à Dijon, 31 à Limoges ainsi qu'en Corse, 33 à Toulouse, 34 à Nîmes et ça peut monter jusqu'à 35 à Montauban. Des températures qui baisseront à nouveau donc ce dimanche du 15 août après le passage des orages. Une bouffée orageuse qui balayera le pays d'ouest en est.
Merci Marlène Duret. Europe 1. Et dans un instant, on retrouve évidemment un livre pour l'été, ces conseils précieux des lectures de Stéphane Place en collaboration avec la fameuse librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Rémi Botsaron sur Europe 1.
Un livre pour l'été, comme tous les soirs, donc on retrouve Stéphane Place pour un conseil de lecture, notre correspondant dans le Sud-Ouest, en collaboration avec la librairie Mola à Bordeaux. Et on change encore de genre littéraire ce soir avec Stéphane, puisqu'on va parler d'une correspondance, celle d'un grand nom de la littérature française des années 70, un maître du polar, j'ai nommé Jean-Patrick Manchette.
213 lettres inédites rassemblées dans cette parution, la correspondance de Jean-Patrick Manchette de 77 à 95, l'un des maîtres du polar, du nouveau polar français, puisqu'il a su renouveler le genre du roman noir dans les années 70. En haut de l'affiche durant toute cette période, des livres cultes, Laisser bronzer les cadavres, Nada, Morgue pleine, La position du tireur couché, pour ne citer que cela, sans oublier les adaptations pour le cinéma, la critique, les traductions. Manchette, fin lettré, érudit, ancré dans le mouvement de gauche de cette époque, est mort il y a 25 ans. Aujourd'hui, la publication de cette correspondance, entretenue avec beaucoup de soin et d'attention, réjouit Véronique Marot, libraire chez Mola.
Manchette a beaucoup de destinataires parmi ses lettres, plus de 200 lettres qui ont été réunies ici parmi sa correspondance abondante. Correspondance inédite en très grande partie. Destinataires prestigieux, on rencontre James Ellroy, Robin Cook, Jean Echenoz, Ross Thomas, Pierre Signac, donc des amis, des gens qu'il traduit, qu'il apprécie la plupart du temps. C'est vraiment des lettres qui font voir à la fois l'homme, le laboratoire intime de l'écrivain, mais aussi l'époque, ces années 70, 77-95, puisque ça s'arrête brutalement avec sa mort. Et donc on rentre à la fois dans l'œuvre, mais aussi dans l'homme et dans l'époque. On voit toute la mesure et la démesure de ce personnage, de ce monstre de la littérature, parce qu'il s'agit d'un des plus grands écrivains du XXe siècle.
Et qu'il écrive à son banquier, à la comptabilité de son éditeur, ou à Jean Echenoz, ou encore James Ellroy, Manchette le fait dans un style qui lui est propre, des lignes empreintes d'humour, de générosité, parfois de colère. Gilles Magnon, universitaire bordelais, spécialiste du roman noir.
La correspondance, elle permet d'éclairer un moment qui est peu connu. C'est le moment justement où, à peu près, Manchette cesse de publier des romans après 1982. Cette correspondance, elle permet justement de voir que Manchette, à cette époque-là, ne cessait pas du tout d'écrire. Il bloquait des moments, des journées, etc. pour faire sa correspondance. C'est-à-dire qu'on le voit quand on regarde les lettres tapées à la machine, il y a un énorme soin porté à cette écriture-là. Le fait aussi de ne pas considérer qu'une forme d'écriture soit inférieure à une autre forme d'écriture. L'idée, c'est toujours de parler, ce qu'il voulait faire au départ avec les romans, de communiquer à quelqu'un, d'échanger des choses, etc. Voilà. Donc la correspondance devient quelque chose d'absolument capital.
Une liberté de ton qui caractérise la correspondance de Jean-Patrick Manchette de 77 à 95, c'est Lettres du mauvais temps, c'est le titre de ce livre.
Et merci Stéphane Place pour ce nouveau conseil de lecture. Autre rendez-vous estival tous les soirs sur Europe 1, c'est La Bonne Idée avec François Claus qui nous révèle donc une idée qui émerge en France pour faire face à la crise. Et nous avions parlé la semaine dernière de ce Niçois qui offrait à des soignants des tours de catamaran. Eh bien, nous parlons ce soir d'une nouvelle initiative en faveur de ces soignants fatigués, épuisés par la crise sanitaire. Ils sont conviés dans des stations de ski. Ça s'appelle l'opération Montagne Solidaire.
Europe 1.
On voulait vous saluer, vous êtes notre coup de chapeau du soir, vous qui présidez France Montagne, vous avez fédéré des énergies pour pouvoir offrir des séjours de vacances à ceux qu'on applaudissait sur les balcons pendant les mois de confinement, qu'on appelait les soignants, mot qu'on ne connaissait pas d'ailleurs au début et qu'on n'utilisait pas. Et vous avez fédéré un formidable réseau d'énergie. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, Jean-Luc Bock.
Alors tout simplement, on a voulu dire merci à ceux qui nous ont sauvés, à ceux qui nous ont aidés pendant de nombreuses semaines, qui nous ont empêchés d'être beaucoup plus dans la difficulté. Et après une concertation en conseil d'administration, et certaines idées sont sorties très lumineuses, on a voulu dire merci, on a voulu dire on ne vous oubliera pas, on ne vous oublie pas. Et c'est pour cela qu'on a offert un peu plus de 1000 séjours, un peu plus de 25 000 nuitées gratuites en montagne. Inutile de vous dire qu'on a eu beaucoup plus de demandes que cela, qu'on n'a malheureusement pas pu satisfaire tout le monde. Mais en tout cas, c'est un vrai coup de cœur et c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en avant. La solidarité de la montagne française.
Oui, alors il faut quand même rappeler ce chiffre, un peu plus de 1000 séjours, 25 000 nuitées, disiez-vous. Alors tout ça grâce aux stations, grâce à des hébergeurs, et puis on peut les citer, là pour le coup ils méritent, le Club Med, les stations de montagne comme La Plagne, Tignes, Serre Chevalier, le syndicat des résidences de tourisme. Bref, le but c'était qu'il y ait de plus en plus d'hébergeurs pour pouvoir offrir la montagne à ceux qui avaient besoin de respirer.
Exactement, et montrer que la montagne, c'est pas exclusivement l'hiver comme tout le monde semble penser, que la montagne se vit en quatre saisons et principalement l'hiver et l'été, et qu'on découvre des choses qui sont juste magnifiques. Si vous voulez être contemplatif, c'est l'endroit idéal. Si vous voulez faire du sport, même de haut niveau, vous le pouvez, c'est vous qui choisissez. Et on a même, comme je l'ai entendu quelques fois, la possibilité de se baigner en altitude ou dans des lacs de moyenne altitude. Inutile de vous dire que l'eau est un tout petit peu plus fraîche, mais qu'est-ce que c'est vivifiant.
Oui, aux alentours de quoi 13-14 degrés, hein, généralement, dans les lacs d'altitude. Alors, il y en a qui vont être déçus, je n'ai pas cité tout le monde. Hein. J'aurais pu citer les Hauts-de-Vosges, j'aurais pu citer Isère Attractivité, VVF, qui a offert également des séjours. Bref, une mobilisation tous azimuts qui a permis donc d'offrir plus de 1000 séjours et quelques 25 000 nuitées. Merci à vous, Jean-Luc Bock. Puis on pourrait ajouter que vous avez offert de la fraîcheur aussi en ces temps de canicule que l'on vient de traverser à tous ces soignants qui ont tellement apporté au pays pendant la période d'épidémie. Vous méritiez notre bravo et notre coup de cœur ce soir pour cette belle initiative. Merci Jean-Luc Bock, président de France Montagne.
Merci à vous, mais c'est à eux qu'on doit tout cela. Merci beaucoup.
À bientôt.
Et merci à François Claus pour cette nouvelle bonne idée comme tous les soirs sur Europe 1. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de la presse comme tous les soirs également. Mais d'abord, comme tous les soirs, là aussi, on écoute un peu de musique. Tout de suite, c'est Hervé avec Adenda. Dans un instant, on regarde les unes de la presse qui vous attendent demain. Sachez simplement en attendant qu'il reste 20 minutes à jouer à peu près à Lisbonne entre le Barça et le Bayern Munich dans ce quart de finale qu'on suit ce soir. Et le Bayern continue à se balader 5 buts à 2 face au FC Barcelone. À la une demain, donc d'aujourd'hui en France, par exemple, vacances, vive la campagne avec ces photos de deux touristes à vélo. C'est l'une des grandes modes de cet été. Dans les régions rurales habituellement peu touristiques, les Français s'y précipitent. Coronavirus oblige évidemment, explique aujourd'hui en France. Et l'éco-républicain est à l'unisson puisque c'est un week-end au vert que nous propose l'éco-républicain avec un guide pour une randonnée entre Beauce et Perche. Pourquoi pas, laissez-vous tenter, alors que malheureusement le Maine Libre nous apprend que la Sarthe, qui est également un coin de campagne où on pourrait se balader, la Sarthe se protège contre le coronavirus avec des chiffres qui sont mauvais. Le dépistage gratuit au Mans et le port du masque obligatoire qui s'installe. Et puis, Ouest-France nous parle d'autres touristes qui peut-être profitaient de la campagne française mais ne peuvent plus le faire. Ce sont les touristes britanniques, 14aine britannique. Le départ précipité des touristes, et on les voit sur cette photo en une, ces voitures qui attendent devant le port de Roscoff pour rentrer au pays en quelques heures. Ils avaient quelques heures pour rentrer chez eux sinon ils étaient pris au piège. Et nous dit Ouest-France, il faut le penser aussi. C'est un nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme. Voilà pour quelques-unes des unes qui vous attendent dans votre kiosque demain, 22h30, passé de quelques secondes sur Europe 1. Et tout de suite, vous retrouvez la libre antenne.